Radio Campus, Bruxelles, 92.1.
Personne de nous n'y échappe, bonne année évidemment, première émission de la Conspiration des Planches 2014, bienvenue. Alors comme chaque mercredi 19h-19h30 en direct et le jeudi en rediffusion dès 13h30, la petite émission pour épingler la scène théâtrale à Bruxelles. Et quand on dit scène théâtrale désormais, c'est bien pluridisciplinaire, danse, cirque, etc. Mais cette semaine ce sera essentiellement du théâtre et alors énormément de reprises. Donc ne croyez pas que les théâtres sont fauchés, parce que c'est toujours une remarque qu'on entend quand il y a des reprises. Non, ça vaut le coup de voir des spectacles revenir, notamment 10 ans après, comme c'est le cas ce soir du récit de la servante Zerlin d'Hermann Brock, mise en scène par Philippe Sireuil, créé en 2004, qui revient au Martyr, qui a commencé hier, et c'est pour moi vraiment le beau cadeau de la rentrée. On ira faire un tour du côté de Roméo et Juliette version franco-flamande, hein, une curiosité mise en scène par Yves Bonnen, qui est en France, c'est un Belge installé en France. Joli coup, ça a été créé à Liège l'année dernière, saison pour l'ouverture. Et ça revient au théâtre Le Public. On ira faire un tour du côté du Carnaval des Ombres, seul en scène de Serge Demoulin, magnifique dans cette histoire. C'est une histoire de Boche Wallon, hein. C'est la première insulte qui fait démarrer ce spectacle. On ira faire un tour du côté des Riches Clairs pour aussi une reprise sur la crise, Ora Popularis. Ça peut rester en continu, hein, la crise, donc les spectacles sur la crise. Pas besoin d'être repris. On ira faire un tour du côté des Flamands pour voir Raymond. Alors, Raymond, c'est Raymond Goutal, c'est écrit par Thomas Gunzig, c'est joué par le comédien XXL Joss de Pau et c'est mis en scène par Manu Rich. Nous, on ne s'étonne plus désormais de voir les Français, les francophones et les Flamands travailler ensemble, mais Raymond est un superbe solo. Et on ira faire un tour, si on a le temps, chez les Tarés, hein, chez des Allumés. Là, c'est Stupides, reprise, superbe reprise au théâtre Les Tanneurs, par le collectif déjanté, comme on dit, mais vraiment allumé, transquinquennal. Mais avant tout, je me retourne vers Nicolas. Bonsoir Nico.
Bonsoir, bonne année à tous.
Alors Nico, toi tu es parti voir ce Roméo et Juliette au public hier.
Alors c'est pas vraiment une reprise, c'est une tournée de ce spectacle qui a été créé donc en ouverture du nouveau théâtre de Liège. Yves Bonnen, donc, comme tu disais, qui s'empare de ce Shakespeare, adapté, puisque la langue est réadaptée par Marion Bernet. En effet, il a voulu donner un petit coup de modernité à ce face-à-face amoureux, à cette passion adolescente qui nous émeut depuis tant de siècles et, voilà, et qui est toujours d'actualité en effet. Ici, qu'est-ce qu'il a fait pour la moderniser? Mis à part la scénographie, c'est aussi donc, au niveau du texte et des ustensiles qui sont utilisés. Bon, c'est un gadget, hein, mais il y a une tablette qui est utilisée pendant le spectacle. Mais on sent vraiment que Juliette, c'est une ado d'aujourd'hui, hein, franchement. Elle n'écoute pas ses parents, sa mère, et tout ça.
Mais le parti pris, le plus fort du parti pris ici, c'est qu'il met une famille francophone et une famille flamande.
Alors là, c'est l'aspect belge, évidemment. Modernité belge. Les Montaigu sont francophones et les Capulet sont néerlandophones. Vous imaginez que l'opposition entre les deux familles renvoie à une autre opposition bien célèbre. Et c'est un beau jeu sur la langue que nous offre Yves Bonnen là-dedans, parce que les deux familles, en fait, conjuguent leur langue dans leur opposition, mais aussi dans leur amour, évidemment, Roméo et Juliette. Ils conjuguent leur langue, un mot l'un sur l'autre, parfois, comme ça, et ils se retraduisent pour montrer un petit peu cette passion, cette envie d'aimer ensemble, en tout cas pour les deux jeunes ados. Alors, l'histoire, on ne vous la rappelle pas, mais le premier aspect, donc, point fort pour moi, c'est ce jeu sur la langue qui s'apprécie tout au long du spectacle. Et puis, deuxième point fort, c'est aussi sans doute le choix des jeunes acteurs. On a une belle Juliette, Evelyn Bosmans. Il y en a deux, hein, qui s'alternent. Moi, j'ai vu Evelyn Bosmans hier lors de la première au public. Et franchement, elle est parfaite dans ce rôle d'ado. D'ailleurs, elle est très jeune aussi, hein, mais elle est parfait dans aussi cette rébellion adolescente. On n'a pas une Juliette qui est aussi un petit peu ingénue, prude et tout ça. Elle veut aller de l'avant dans sa passion pour Roméo. Et Roméo, ben, lui, il est animé et empli par cette passion. Et il y va les yeux fermés dedans et jusqu'au destin tragique qu'on lui connaît également.
Moi, je l'avais vu à Liège et j'avais trouvé que le franco-flamand, c'était plutôt un habillage qui était très intéressant, très savoureux parce qu'il y a la langue. Mais au niveau de la dramaturgie ou la tragédie, renvoyée à nos différences du Nord et du Sud, je ne l'avais pas vraiment ressenti.
Non, on va dire que c'est plus un clin d'œil, peut-être. Voilà. Mm-hmm. Mais comme tu dis, ça s'apprécie dans la musicalité, dans ce jeu d'alternance des langues. Donc, vous inquiétez pas, c'est surtitré. Hein, donc, vous comprendrez tout le spectacle.
Si on dit Gottfordum, ça se comprend. Il y a une rage comme ça qui est bien installée par cette gamine. Alors, un mot de cette scénographie qui est superbe.
Alors, on est sur les toits d'une ville, puisqu'on est invité sur une espèce de toit verrière, comme ça, qui surplombe une ville avec le panorama, la skyline d'une ville qui entoure la scène.
Qui est une maquette.
Et qui est une maquette, oui, sur scène. Et on retrouve, par exemple, pour la scène du balcon, c'est très bien amené aussi, c'est ce jeu où on sautille sur les toits de la ville. À la fois, le jeu principal se fait sur cette verrière, hein, qui est avec les lumières, les ambiances, qui est à la fois toit de la salle de danse pour le bal des Capulets. Et à la fin, une magnifique image qui se crée, là, c'est le cimetière, évidemment, où les deux amants se retrouvent.
Mm-hmm. Je trouve qu'Yves Bonnet, dans sa mise en scène, a eu l'art de faire des beaux tableaux, hein, des très visuels, et alors de mettre en scène réellement une foule, hein, de va-et-vient qui est très spacieuse. Toi, tu l'as vu au public, tu me disais que le toit, ça était un peu serré.
Oui, je n'ai pas pu comparer avec le Nouveau Théâtre de Liège. J'avais l'impression que c'était un petit peu écrasé au niveau de la hauteur du plateau, mais ça s'apprécie de toute façon quand même. C'est parce que c'est sur la profondeur également. Il y a une perspective accentuée qui est faite vers le fond de la scène. Et c'est vrai que c'est une des forces aussi de ce spectacle, même si je trouve qu'il y a encore plus de potentialité, notamment au niveau des lumières, qui auraient pu être exploitées. Mais bon, ça... Alors, je fais le spectacle moi-même.
Hein. Et alors, aussi, joli clin d'œil, pour ma part, c'est la musique.
Musique créée par My Little Sheep Dictaphone. Alors là, c'est la touche liégeoise, hein, qui arrive là-dessus. C'est Serge Rangoni qui a fait découvrir à Yves Bonnen Serge Rangoni, donc directeur du Théâtre de Liège, qui a fait découvrir Yves Bonnen ce groupe qui a connu beaucoup de succès avec son dernier album et qui revient d'ailleurs bientôt avec un nouvel album. Alors cette musique, c'est d'abord deux chansons, au début et à la fin, et aussi parfois des touches comme ça. Là aussi j'aurais aimé que ça habille un petit peu plus. Moi j'aime bien quand il y a du son, quand la bande son est bien présente, pour aussi... renforcer un petit peu la tension de toute cette passion et de cette tragédie. D'ailleurs, en parlant de tragédie, je trouve que c'est même un peu plus tragicomique, je trouve, dans cette version que la version...
Moi, je trouve que la tragédie shakespearienne, comme on la connaît, elle est un peu enlevée, parce que Juliette est quand même drôle dans son impertinence. Hein. C'est vraiment, comme tu disais, deux jeunes d'aujourd'hui qui essayent de se trouver à travers les toits et leur famille qui se déchire. On a un peu plus de mal à voir les deux familles franco-flamandes. Parce que les références politiques n'y sont pas non plus.
Voilà. Non, il n'y a pas du tout de... Quand on vous dit que c'est un clin d'œil à la situation belge, jamais on nous parle de frontières linguistiques ni tout ça. Donc, d'ailleurs, ce qui est vraiment beau, c'est qu'elles se réconcilient, les langues, puis dans la passion des deux, et qu'elles se conjuguent. C'est ça aussi qui est peut-être le message politique, si on peut dire, de cette création d'Yves Bonnen. Voilà.
En tout cas, à voir pour le jeu des langues et les jeux de jeunes comédiens. Roméo et Juliette au théâtre Le Public par Yves Bonnen, un metteur en scène belge installé en France. C'est toujours intéressant, c'est de l'extérieur qu'on revient sur nous.
Et il a fait beaucoup d'opéras aussi. Hein. Jusqu'au 15 février, donc au Théâtre Le Public, www.theatrelepublic.be. Alors, on accueille Elisabeth qui s'installe tout doucement.
Voilà, bonsoir.
Voilà, comme ça, c'est fait.
C'est installé. Comprend. Alors, moi, je vous emmène sur, franchement, vraiment le cadeau de nouvelle année. C'est le retour de la servante Zerline. Je ne m'y attendais pas du tout. C'est un spectacle de Philippe Sireuil créé en 2004 et qu'il reprend donc forcément il le recrée, il le retravaille, mais toujours avec la comédienne qui est Jacqueline Beer. Alors c'est une de nos plus anciennes comédiennes, et franchement pour moi c'est un des meilleurs rôles de Jacqueline Beer. Quand on voit comment un metteur en scène met en scène et en jeu un interprète, et qu'il y a vraiment une relation ténue, beaucoup d'acteurs me disent, voilà, le metteur en scène nous dit rien, donc on doit se débrouiller sur scène, c'est comme avoir un chef d'orchestre, il faut vraiment quelqu'un qui soit là. Et donc de La Trempe de Philippe Sireuil, il y a vraiment un état de grâce, comme on dit, quand une comédienne est sublime. Et en plus, elle a un très beau texte qui est La Servante d'Erline, qui est une adaptation d'un extrait du roman Les Irresponsables de Hermann Brock, un auteur autrichien. Et elle raconte, c'est une servante, donc, et elle raconte petit à petit une espèce d'aveu, tout le spectacle est un aveu, une histoire d'amour qu'elle a eue avec les gens chez qui elle travaillait, donc chez son employeur qui est un baron. Et petit à petit, elle se confesse. Et ce qui est intéressant, que ce n'est pas des confessions mièvres de servante ou entendues. Elle a du caractère et elle est quasi insolente pour les propos qu'elle tient. Et elle raconte cette histoire d'amour qui s'est passée dans un temps très très court, inimaginable, comme ça, un peu un aparté chacun dans les vies, hein, sortis de leur rail. Et une histoire d'amour avec son patron. Ça a duré 7-8 jours. Et on sent tout le long de la pièce quelque chose de très hot, je veux dire, aujourd'hui, on va dire hot. Et en plus, c'est des souvenirs là, hein, que je raconte, c'est pour ça que c'est resté assez inoubliable. Et en plus, Philippe Sireuil est vraiment un grand maître de la lumière aussi. Et c'est une lumière qui est très douce, très chaude, comme ça, à travers la fenêtre. C'est très simple, c'est un intérieur très, très simple. Je crois qu'on bouge presque pas. Et dans mon souvenir, il y avait une personne qui recevait les confessions, qui était statique, donc un rôle de composition. Et c'est vraiment une heure et demie de confessions qui sont très, très denses, où on voit évidemment la différence entre la bourgeoisie, l'emploi, les rêves d'une servante, et comment on se fait larguer, comment on se fait lâcher, et puis comment on arrive dans l'émoi amoureux, qui est quasi sexuel, hein. Alors Jacqueline Beer, très calme, les mains dans son tablier de servante, elle a les cheveux tout plaqués en arrière, donc on est très surpris par ce jeu ultra sec et contemporain de Jacqueline Beer il y a 10 ans, qui était un jeu époustouflant, parce que c'est vraiment elle est accompagnée par un rôle de composition, mais c'est vraiment un réel seul en scène qui subjugue. C'est l'état de grâce. Et donc voilà, moi je vais le revoir ce soir avec Nicolas, mais je vous le conseille vraiment pour vous et vos parents, si les jeunes veulent faire un cadeau à leurs parents pour Nouvel An. Donc c'est La Servante d'Erline à voir au théâtre Le Public, un des grands spectacles qu'on ne s'attend plus. Et c'est ça qui est intéressant dans les reprises, c'est qu'on ne s'attend plus de voir un spectacle qu'on a vu il y a 10 ans revenir. C'est ce que je disais à Nicolas en début. Bon, les DVD, les films, on peut les revoir et tout, mais les théâtres, quand vous voyez une belle pièce, dites-vous à un moment donné, bah tiens, où va ce décor ? À un moment donné, tout ce travail-là de comédiens qui ont été à fond dans une création, tout part comme ça en fumée. On se dit, bon, bah, adieu, on ne te reverra plus.
Mmh. Et là, c'est ce qui fait aussi un peu la beauté du moment vécu au théâtre, non ? Quand on est spectateur.
La spécificité, en tout cas, du théâtre, c'est moins reproductible.
Mais l'idée de reprise, tu vois, on croit toujours qu'une reprise, c'est le metteur en scène n'a pas voulu faire autre chose, ou il n'avait pas de sous. Il y avait... Et puis, à un moment donné, il faut qu'il y ait, comme il y a des tournées, il faut qu'il y ait des reprises comme ça qui reviennent. En danse, on a ça. Anne Teresa reprend son répertoire et elle le passe. Bon, on a le répertoire, les classiques qu'on repasse de metteur en scène en metteur en scène. Mais des spectacles comme ça, d'œuvres qui reviennent, on pourrait faire une liste et faire une commande.
C'est quand même aussi généralement un gage de qualité aussi. Si on reprend quelque chose, c'est qu'il a été bien accueilli par tout un chacun et qu'il y a quelque chose dedans et que ça mérite d'être repassé et revu. Et parfois un petit peu corrigé, mais surtout revu.
Le récit de La Servante d'Erline, c'est à voir jusqu'au 25 janvier du côté du Théâtre de la Place des Martyrs, www.theatredesmartyrs.be.
La conspiration.
De retour dans La Conspiration des Planches qui fait sa rentrée.
Qui fait sa rentrée, et donc avec les nombreuses belles reprises de la rentrée. Hein. Et Elisabeth, toi, tu es partie voir pour nous hier Carnaval des Ombres.
Oui, alors c'est effectivement une magnifique reprise. C'est une prestation soulignée par le prix de la critique pour Serge Demoulin, qui nous raconte simplement sa vie. Hein, voilà, tant qu'à faire, on n'est jamais aussi bien servi par soi-même, mais c'est avec beaucoup de bonheur, en tout cas pour ses spectateurs. Alors c'est quelqu'un qui nous vient de la région de Malmedy et qui nous raconte un petit peu des histoires de ce coin-là.
Tu peux le dire, je l'ai dit en entrée, on l'avait taxé de boche wallon.
Voilà, c'est ce qu'on peut dire ça aussi, mais c'est vrai que c'est un pays de forêt, mais il s'est passé pas mal de choses dans les forêts, notamment une guerre, donc une certaine bataille. Et c'est vrai que c'est un seul en scène qui fonctionne sur une anecdote aussi, on va pas la dévoiler parce qu'il faut vraiment y aller, mais c'est l'anecdote, mais on dépasse l'anecdotique puisque c'est la petite histoire d'une personne finalement et d'une famille qui nous fait tutoyer la grande histoire et un petit peu toutes les choses qu'on a tuées en Belgique aussi, puisque c'est cette communauté un petit peu ignorée. On parle beaucoup des Flamands, des Wallons, on en a parlé maintenant. Et puis il y a les autres aussi.
Il y a les germanophones,
mais il y a surtout un comédien sur scène qui, bon, n'est pas un inconnu au bataillon, bien sûr, certainement pas. Serge Moulin, si on remonte quelques années en arrière, c'était quand même le jeune premier. C'était...
Oui, il est resté, hein, il est pas mal. Hein.
oui, non, bien sûr, mais personnellement, je l'ai redécouvert avec beaucoup de plaisir parce que j'avais l'impression qu'après, c'est quand même quelqu'un qui a eu pas mal de rôles-titres, etc., ou qui ont confié vraiment des choses, qui avaient les épaules un peu serrées. J'avais l'impression qu'il y avait une petite éclipse ou une petite baisse de régime. Et puis là, je l'ai retrouvé, mais presque physiquement, avec un corps, une stature, en fait, que j'avais un peu oublié. Donc, c'était une double surprise.
C'est très fort quand on l'a revu, c'était voilà, très surprenant. Oui. Et aussi, c'est toujours l'idée du metteur en scène qui est en face de lui.
Voilà, c'est
et
ça.
Michael Delenoir réussit. Mmh. On prend le meilleur du comédien pour le mettre sur le fil. Et Serge Lemoulin a une très belle histoire qu'il a écrite lui-même.
Bien sûr, c'est ce que j'allais dire aussi. Alors, c'est aussi une assez belle plume quand même qui est là, parce que là, il y a une langue qui se devine derrière, il y a une vraie construction et il y a un vrai jeu d'acteur. Donc, en fait, que demander de plus?
Est bien faite parce qu'elle parle de... C'est un comédien qui raconte et on fait des allers-retours entre la capitale et sa région. Et ça, c'est intéressant.
Et c'est le chemin qu'il faisait, en fait.
Bien sûr, tout à fait. Oui, non, on sent le vécu, mais le vécu qui a un sens et qui dépasse le nombrilisme, en fait.
Mais c'est ce qu'il veut éviter, puisqu'évidemment, quand lui débarque dans la capitale, on ne connaît pas cette histoire. Et tout un chacun ici, on oubliait cette histoire, où la Belgique, là, n'était pas
simplement
occupée.
On n'a pas eu à l'oublier, voilà. On ne nous l'a simplement pas dite.
Voilà, c'est canton de l'Est, ou en tout cas ces régions même un peu plus larges, n'étaient pas occupées. Elles ont été annexées. Mm-hmm. Donc on était en Allemagne de ce
bien
côté-là,
sûr, oui.
avec tout ce qui inclut comme conséquence pour les gens qui ont vécu, qui étaient allemands, obligés de s'engager dans la Wehrmacht, et tout ce qui s'ensuit, quoi, avec toutes les privations
ou tous les drames aussi,
et les drames dans l'histoire.
Et puis l'opprobre. Et ce qui est intéressant, c'est que
l'opprobre, voilà, cherchez le mot.
Serge Moulin a fait des recherches, a rencontré des gens, et il a réussi à garder la fable
tout à fait.
Et alors de prendre ce qui est très rare, c'est vraiment le folklore du carnaval qui s'amène par petites touches ce spectacle.
Et non, c'est vrai que c'est une magnifique réussite, comme on n'en avait plus vu depuis longtemps, parce que c'est aussi un seul en scène qui est long, mais on ne voit pas le temps passer.
Non.
C'est vrai qu'on commence à 20h30, oui, il y a une petite pause péquée là quand même, mais on commence à 20h30 et on en sort, il est 10h passées, mais le temps n'est pas passé justement, parce qu'on est avec lui tout le temps, et il rend son personnage attachant, et on a l'impression de rentrer tout doucement dans cette histoire, et c'est vrai qu'il y a à la fois ce plaisir de cet acteur magnifique qui nous est rendu, j'ai vraiment envie de dire ça, on le retrouve, et puis de cette langue qui s'amorce, et puis simplement de cette histoire et de cette émotion qui se crée, et de l'attachement qu'on peut avoir à ces personnages-là. Donc
et avec un peu de patois et aussi beaucoup d'humour, malgré la tragédie.
Mais tantôt tu disais qu'il avait eu un petit coup de mou et il revient avec ce spectacle. Il me l'avait dit lui-même qu'il avait eu besoin de retravailler sur lui-même mais sur cette histoire pour revenir comme ça, et il a été aidé donc par Michael Delaunay à la mise en scène.
Et je crois qu'on l'a primé dans les prix du théâtre.
Meilleur auteur aussi.
Il était nominé meilleur auteur. Oui.
Mais le spectacle tourne aussi un petit peu parce que j'ai pu lire et donc voilà. Mais bon, c'est vraiment mérité. Donc allez-y, quoi. Et en plus, c'est quand même jusqu'au 25. Vous n'avez pas d'excuse pour ne pas y aller.
Et on serre le péquet. Alors ce qui est aussi intéressant,
c'est
de voir aussi tout le travail qui est fait sur le carnaval. Et donc Carnaval des ombres, où quand on est bien bourré, on peut commencer les paroles vraies peuvent être sorties à un moment donné là-dedans.
Oui, mais on sent aussi beaucoup de tendresse pour cette région, et je pense qu'on n'y retournera pas de la même manière. On la regardera différemment.
Et puis quand même, l'histoire, bon, c'est un fil hein, au cinéma ou au théâtre, l'histoire d'un village qui est silencieux, qui ne veut pas affronter ses fantômes. Et pour les générations à venir, pour leurs enfants qui, eux, sont en demande de réponse, et quand on voit que la parole est très difficile à acquérir, il y a aussi toute cette histoire de ce gamin seul contre tous qui est maintenant acteur à Bruxelles. Et il vit à Bruxelles, il n'est pas dans son
coin. Mais on ne le rend pas, on garde.
C'est à l'Atelier 210 et c'est encore jusqu'au 25 janvier. Donc profitez-en, il est là pour un petit bout de temps à Bruxelles. www.atelier210.be, c'était une création aussi du Rideau de Bruxelles.
Mise en scène, Michael Delenoy. Alors Nicolas, toi tu nous parles de Aura Popularis, qui est aussi une reprise, donc on est dans le quart d'heure reprise.
On est toujours là. Et là on va parler de Crise, et avec Dominique Breda, qu'on ne présente plus, donc auteur comique de comédie bien connue, mise en scène ici par Emmanuel de Koning, un jeune collectif de comédiens. C'est d'abord ça qui est important dans cette pièce, c'est 14 quand même comédiens sur scène, qui s'alternent à l'habitude de Breda dans une série de scénettes qui abordent la crise par tous ses côtés. Je crois qu'Elisabeth, tu l'avais vu aussi,
non?
Non. Voilà. Alors, évidemment, la plus grande crise économique mondiale depuis 1929, ça concerne tout le monde. Et là, on parle à la fois dans ce spectacle des relations avec le banquier, des relations aux travailleurs syndiqués. Et c'est toutes des petites scénettes comme ça qui se suivent et où les rôles s'inversent parfois, évidemment aussi, avec toute la plume comique de Breda qui retrouvait après quelques spectacles un peu moins bons. Et c'est une belle mise en scène aussi avec un plateau couvert de petits papiers comme ça, comme des cendres de billets comme ça qui sont là. Et c'est vraiment un bon Breda à retrouver, notamment par la jeune distribution et par aussi la plume de Breda qu'on retrouve ici au Richclair dans cette mise en scène et dans ce spectacle Aura Popularis. C'est évidemment la voix de la foule ici qu'on veut nous donner, la voix de tout
avec
un chacun.
Un contre-pied quand même.
Un contre-pied, oui.
Par tu l'as vu, Élie ?
Je l'ai effectivement vu, oui.
On s'en souvient.
Ça m'a oublié le titre, mais effectivement, maintenant, non, c'est une belle évocation et effectivement, c'est un spectacle intéressant.
Et c'est à voir jusqu'au 15 janvier du côté du théâtre du Centre culturel Les Richclair, www.lesrichclair.be.
Allez, on circule en réseau entre nous. Donc nous, Nico, toi, tu l'as vu, on est parti voir. On avait vu en son temps, il y a peut-être un an ou deux, Raymond. Donc,
Raymond,
autre grosse surprise, parce que là, c'est une figure du foot qu'on prend. Alors, moi qui ne suis pas amateur de foot, mais Nicolas, je pense que tu l'es un peu plus. Bon, c'est Raymond Goutal, c'est plutôt la figure légendaire de
c'est le personnage,
de ce type.
Oui.
Ouais. Et c'est écrit par Thomas Gunzig, qui lui n'en connaît pas une sur le foot, donc c'est encore plus drôle. Et mis en scène par Manu Rich et interprété par Joss de Pauw, qui joue bien dans cette langue de Goutal, c'est un mix un peu bruxellaire. Et qui, moi j'ai eu le souvenir, maintenant c'est loin, donc c'est très sobre, le mec est en costume cravate, les mains dans les poches, et il raconte ses cinq théories sur le bonheur dans la vie. Et j'ai eu l'impression, moi, d'avoir vécu du Jean-Claude Van Damme. Donc c'est à un moment donné d'humour avec des théories et surtout une langue imparable de Goutal.
Mais ce qui est fascinant, j'avais rencontré Thomas Gunzig qui me disait que lui, en effet, il ne connaissait de Goutal que ce qu'on a vu et revu dans les médias. Et il a fantasmé là-dessus, un petit peu sur ce personnage. Finalement, ce gars, c'était quoi le bonheur pour lui? Et voilà, et ça, il nous explique ça comme une stratégie, une tactique de foot, quoi. En disposant les joueurs sur le terrain, eh bien, il a disposé les éléments de sa vie sur le terrain et nous les offre en buvant un verre de vin. Parce qu'il n'aime pas, enfin, avec la bière, il a une relation bizarre, ce qui est bizarre aussi dans le milieu du foot. Enfin, c'est vraiment le grand Raymond Goutal qui est là, avec cette langue, en effet. C'était monté au KVS, écrit par un francophone, mise en scène par un francophone, joué par un flamand.
Voilà, mais c'est pas n'importe qui non plus. Joss de Pauw, c'est quand même le nec plus ultra.
Dans ces cas-là, on dit le genre de comédien qui peut lire un bottin et te faire
voilà,
un spectacle.
Oui, moi j'achète, j'achète. Même dans le noir. Il n'y a pas de souci. Non, c'est vrai que c'est un grand comédien quand même.
On a de très bons comédiens. Quand je pense à Jacqueline Beer ou à Joss de Pauw et au plus jeune Serge Moulin, on a des gens.
C'est
des pointures,
quand même.
En seul en scène, ça permet de voir. Enfin, seul en scène, il n'y a pas de faux semblant. Le mec est seul sur scène et il doit avoir une présence. Ouais. Et donc, c'est vraiment un exercice. Et
intéressant, c'est que tu as dit le mec pour Jacqueline Beer.
Ou l'interprète pour Jacqueline Beer. Mais ils doivent assurer. Et là, toute l'importance d'un metteur en scène en face et d'un travail sur le fil de quasi-connexion, yeux contre yeux, ça vaut le coup. En tout cas, voilà, autant de bons spectacles, de bonnes reprises. Si vous ne les avez pas vus, c'est le moment.
Oui, Raymond, c'est à voir au KVS. RVS ce jeudi et ce vendredi. Et ça repassera à Charleroi le 18 aussi, pour ceux qui voudraient aller le voir en Wallonie. Donc.
Si se termine la conspiration des planches, la première de l'année, Radio Campus 92.1 FM. On se quitte à la semaine prochaine. Beaucoup de créations, tout démarre le 14. Donc là, on sent qu'on transpire déjà l'idée.
On va se dispatcher dans les théâtres.
Nous, on ira voir
une comédie
crunch.
C'est quand même une année qui commence particulièrement bien.
On prévoit une comédie crunch. En tout cas, La Servante Zerline, l'inattendu, la reprise inattendue, courez-y, parce qu'on ne sait pas si on la reverra après, c'est Jacqueline Beer. C'est le moment de la voir dans un grand, grand, grand rôle. Roméo et Juliette franco-flamande, un peu mignon. Carnaval des ombres, Serge de Moulin sur une histoire belge qui est assez puissante et drôle en même temps. Aura Popularis pour la crise. Raymond pour les amateurs de foot ou d'acteurs XXL. Et à la semaine prochaine. Au revoir Nico, au revoir Elisabeth.
Salut. Rediffusion de cette émission le jeudi à 13h30 et podcast sur demandezleprogramme.be. Belle semaine à vous.
La constelación.